Merci.
Bonjour,
mon nom est Ben.
Et je suis
un co-leader de l'équipe jeunesse avec ma wife, ma femme Jacqueline, qui est vraiment la figure de l'ombre du groupe de jeunes, mais qui vraiment travaille avec moi. Et je remercie les jeunes parce qu'ils m'ont laissé m'entraîner sur eux la nuit dernière pour le sermon. Et j'aime vraiment l'église de Trinity parce que Trinity m'aime. Non parce que je suis génial, mais parce que j'essaye d'apprendre comment faire un ministère de jeunes. Et les parents ici sont vraiment très tolérants. Ils sont patients avec ma communication. Mais j'étais vraiment extrêmement honoré quand Carl m'a demandé de prêcher aujourd'hui, parce qu'il m'a vraiment demandé ça. C'est vraiment une grosse tâche, je pense. Et je vois ça comme le fait d'extraire de l'or. Et avec mes sermons, je ne sais pas si je peux faire ça, parce que je me dis que l'or, ça n'est pas toujours brillant, mais ça l'est quand ça vient de la parole de Dieu. Donc voilà, il faut que vous testiez mes paroles avec Dieu pour être sûr que c'est de l'or qui passera dans vos oreilles. Donc ce qui a pour moi été très précieux, c'est mes prières pour l'église Trinity. Et les mois récents, en fait, depuis le début de 2017, nous avons fait de la prière pour Trinity une priorité. Nous avons vu ce film, par exemple, qui parlait de prière, qui parlait de l'église persécutée. Et il y a un grand groupe qui s'est formé dans l'église pour prier pour ces sujets. Et je voulais vous parler de comment je prie pour l'église de Trinity, comment je prie pour les enfants de l'église et les jeunes, et comment je prie pour ma femme, mes amis. Et ça suit la prière de Paul qui est dans les Colossiens. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles, c'est dans Colossiens chapitre 1. On va regarder les versets. Colossiens chapitre 1, Épître aux Colossiens chapitre 1, versets 9 à 12. Et ce n'est pas comme ce qu'on peut lire dans Matthieu 6 ou Romains 12 ou 13. Ce n'est pas une explication de comment vous êtes censé prier, comme Jésus a déjà fait. Jésus a déjà dit, voici comment vous devriez prier. Et là, c'est juste Paul qui montre comment lui, il prie. Mais ça ressemble quand même à comment vous êtes censé prier. Mais ce n'est pas forcément la référence qu'il essaye de montrer. Mais on va s'en inspirer. Donc, si vous y êtes, Colossiens chapitre 1, versets 9 à 12, on lit. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Je vais prier un instant. Père Céleste, je te remercie pour ce jour, pour ce temps, pour cette semaine. Seigneur, ta fidélité nous a été montrée cette semaine, même si nous ne l'avons pas vue. Et Seigneur, je te demande qu'aujourd'hui, tu puisses nous aider à regarder, à entrer dans ta parole et à repartir avec de l'or plein les poches, plein l'esprit. Que tu puisses nous assurer que c'est vrai, que c'est bon, et que ces mots nous encouragent, nous donnent de la puissance et que nous puissions grandir en amour pour toi, Seigneur. Alors que nous chantions tes louanges, Seigneur, et que nous puissions dire comme nous l'avons dit dans la louange, avec nos cœurs et non seulement notre bouche, tout est bon pour moi, avec mon âme. Alors, quand Paul commence à parler dans cette lettre, vous allez réaliser qu'il dit, et non, pas juste dans la traduction française, mais on remarque que dans la traduction de ce passage, il y a plusieurs traductions différentes. Et je trouve que c'est très intéressant. Et donc on va regarder ça aujourd'hui. La première chose qu'on regarde, le premier mot, donc Paul a une raison de prier pour les Colossiens, l'église des Colossiens, les Colosses. Donc moi je pense, on se demande qui étaient les Colossiens. Et moi je pense qu'il y a une similarité avec les gens de Strasbourg. Quand je parle à mes amis aux États-Unis, il y en a plein qui ont entendu parler de Strasbourg, mais bon, il y en a plein qui pensent que la France c'est dans Paris. Je parle de mes amis américains. Et donc j'abandonne, je ne dis plus aux gens où j'habite parce qu'ils pensent tous que j'habite à Paris. Parce que bon, c'est une grande ville. Et Colosse était une ville, une grande ville aussi, mais une ville entre d'autres plus grandes villes, plus grandes églises. Et donc Colosse, c'était une ville internationale, il y avait des païens et des juifs, mais c'était la grande ville de cette zone géographique. Et donc il écrit à des gens qu'il n'a même pas encore rencontrés, donc il ne connaît pas vraiment les Colossiens directement. En fait, c'est à travers quelqu'un que Paul a amené à Dieu qu'il a des nouvelles des Colossiens. Donc il y a deux choses ici. Donc c'est que les Colossiens sont un peuple qui ont moins d'importance, on dirait, par comparaison à d'autres églises. Donc on pourrait dire qu'ils sont moins importants par rapport à d'autres grandes églises. Et deuxièmement, c'est que Paul ne les a pas rencontrés. Donc si je peux faire une pause ici, quand on parle de l'église persécutée, on parle de gens qu'on n'a pas rencontrés. Donc quand on prie pour une église, pour notre église ici, il y a plein de gens que nous ne connaissons pas vraiment. Ben c'est pareil pour Paul et les Colossiens. C'est pour ça qu'on peut s'inspirer de la manière dont Paul prie pour eux. Et troisième chose, c'est que Paul remercie Dieu. Si vous regardez les versets qui sont juste avant le verset 9, pardon, par exemple le verset 4, « En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. » Verset 3, « Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. » Donc Paul prie une prière de reconnaissance pour trois choses. Première chose, pour leur foi en Dieu, pour leur amour en Dieu et pour le travail que la bonne nouvelle fait. Donc Paul est convaincu que les Colossiens connaissent Dieu et il remercie Dieu pour cela. Et nous, combien de fois est-ce que nous faisons ça? Combien de fois nous regardons quelqu'un d'autre qui a été sauvé et nous remercions Dieu pour ça? Je vais reparler de ça plus tard, mais gardez ça à l'esprit. Combien de fois nous faisons ça? Donc c'est une des choses pour laquelle Paul prie. Il remercie Dieu pour le salut des Colossiens, pour ce qu'il fait dans leur vie. Mais il y a aussi une autre raison. Les Colossiens étaient quand même en train de se battre avec l'hérésie. C'est-à-dire, si j'explique l'hérésie, c'est un faux message. Avec des faux témoins, des faux prophètes. Et Paul dit au verset 1 du chapitre 2 de Colossiens, « Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. » Donc, d'abord, Paul remercie Dieu pour ce que les Colossiens ont déjà, mais il prie pour qu'ils soient encouragés et qu'ils puissent réaliser ce qu'ils ont déjà. Vous avez compris? Donc ça, c'est vraiment la clé de ce passage. Et on va regarder ça plus près, mais j'aime beaucoup cette partie. Il mène un combat pour eux, pour que leur cœur soit encouragé pour qu'ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Alors quand je pense au groupe de jeunes, dans ces passages, quand moi je parle, vous pouvez entendre les échos d'autres pasteurs qui m'ont inspiré, comme John Piper. Donc si vous regardez ce que je vais raconter, ça vous allez retrouver des... Vous allez retrouver des passages de livres écrits par ces pasteurs-là, comme John Piper ou Timothy Keller. Mais bon, j'ai aussi fait mes propres recherches. Mais et Timothy Keller a parlé d'un compte en banque qui était ouvert pour les Éphésiens, une espèce de compte en banque, et leur richesse de qui vient de Dieu peut être déposée là-dedans. Alors, qui a ces richesses? Quelles sont ces richesses et où peut-on les obtenir? Ma première question, c'est qui a ces richesses? Les Colossiens sont donc une église moins importante, on va dire, par rapport à d'autres. Mais qu'est-ce qui les rend importants? Et juste la semaine qui vient de passer, j'ai résumé quelque chose, un sermon de Jonathan Edwards, qui était du 18e siècle, et il avait prêché un sermon dont le titre est maintenant « Aventure », qui parle des pécheurs dans la main d'un Dieu colérique, d'un Dieu en colère. Et bonne chance à la traduction, parce que je vais lire un passage. Il demandait la paix et d'être sauf. Et maintenant, il se rend compte que avoir la paix et d'être sauf, ce n'est rien qu'une coquille vide. Et Dieu peut vous tenir au-dessus du lac de l'enfer, comme on peut tenir quelqu'un au-dessus du feu de la cheminée. Et sa colère brûle contre vous. Il vous rappelle que vous n'êtes digne de rien d'autre que d'être jeté au feu de l'enfer. Vous êtes 10 000 fois plus abominable à ses yeux que le serpent le plus hideux et venimeux qui existe. Vous l'avez offensé infiniment. Ah, ça, c'est le problème de la technologie, ça s'est éteint, excusez-moi. Vous l'avez offensé infiniment, plus que jamais. Et pourtant, il n'y a rien d'autre que sa main qui vous empêche de tomber dans le feu de l'enfer à chaque moment. Il faut que vous rappeliez que vous n'êtes pas allé en enfer la nuit dernière, que vous allez souffrir de vous réveiller de nouveau ce matin alors que après avoir fermé vos yeux. Il n'y a pas d'autre raison de ne pas être en enfer juste parce que votre Dieu vous a tenu. Vous en a tenu à l'écart. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle vous n'êtes pas tous en enfer, puisque vous êtes assis dans la maison de Dieu en le provoquant par votre manière de vivre pécheresse. Donc il n'y a pas d'autre raison pour laquelle vous ne tombez pas en enfer à cet instant même. C'est parce qu'il vous tient, il vous retient. C'est très intense. Hein. Mais c'est l'importance que vous avez. C'est l'importance que nous avons sans notre Dieu. Mais nous sommes importants à ses yeux. J'espère que ça nous rend humbles vraiment ce matin. On n'est rien, on n'a pas de signification. Sans lui, on n'a pas d'importance. Mais... Et du coup, la seule chose qui nous retient de tomber dans le feu de l'enfer et de la mort éternelle, c'est sa main, la main de Christ, qui nous retient, qui nous tient au-dessus, qui nous empêche de tomber. Et c'est ça qui est génial. Jonathan Edwards reparle de ça dans son livre d'une manière vraiment puissante, c'est que sa main est là. Et il nous tient dans sa main. Vous êtes important à ses yeux. C'est pour cela. Non seulement il nous permet de rester vivants ici, de rester sur cette terre, mais en plus il nous donne accès à toutes les richesses qui sont en Dieu et en Christ. Nous avons tout. Voilà. C'est l'idée que vous avez tout, alors que vous n'avez rien pu donner à Dieu. Il n'y a rien que vous n'auriez pu lui donner, mais lui vous donne tout. Si vous allez à la fête d'anniversaire de Bill Gates, qu'est-ce que vous pourriez lui donner? Parce qu'il a déjà tout. Vraiment, on ne peut rien lui offrir, il a déjà tout. Vous savez? Vous voyez ce que je veux dire? Vous espérez qu'il serait satisfait que vous soyez simplement venu à son anniversaire. Ben c'est pareil, c'est tout ce que Dieu veut. Il n'a besoin de rien, mais... Et nous, on a tellement provoqué Dieu par nos comportements qu'on mérite l'enfer. Mais en fait, il ne nous demande rien en retour. Il veut juste que nous venons à lui, comme nous sommes. Et c'est ça la richesse que nous avons en Christ. Alors, qui a accès à cette richesse? Vous. Vous avez accès à cette richesse de pardon, de salut, aujourd'hui même, et ça, c'est incroyable. Alors, quelles sont ces richesses? Donc, verset 9 de Colossiens 1. Voilà aussi pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été enfermés, ne cessons de prier pour vous. Alors, quand Paul dit « Nous n'avons pas cessé de prier pour vous », on lit ça souvent dans les prières de Paul. Et il ne dit pas que tout le temps je prie à chaque seconde de chaque journée. Mais ne pas cesser de prier, ce que moi je comprends du sens de ces mots, c'est comme un travail quotidien. Donc si Marc me dit qu'il travaille toujours pour un examen, c'est qu'il ne travaille pas toujours, et là il n'est pas en train de travailler à cet instant précis, mais tous les jours il travaille régulièrement. Et là c'est Paul qui nous dit qu'il prie tous les jours pour les Colossiens, pour demander qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et moi, je me suis dit, à un moment donné, moi, je viens de passer une année assez difficile, vraiment une saison difficile. Pour Jacqueline et moi, ça a été un moment difficile, cette année qui vient de passer. Et c'était vraiment spécialement difficile pour Jacqueline, ma femme. Oui, Karen ne m'a pas demandé de prier parce que j'étais tout puissant. Là, je me tiens devant vous et je viens d'une période de faiblesse. Et j'ai prié donc pour ma femme régulièrement qui ne se sentait pas. J'espère que tu m'en veux pas, hein, de partager tout ça, mais elle passait toute une période, elle pensait qu'elle n'était pas capable, qu'elle n'était pas compétente. Notamment à propos parce qu'elle naviguait entre l'anglais et le français, qui n'est pas son langage maternel. Et moi, j'ai prié pour elle et moi, je me suis aussi galéré un petit peu dans cette partie-là en lisant ça. Prier qu'on puisse être rempli. Je pensais à remplir notre appartement de meilleures choses, par exemple. Je voulais qu'on ait des choses sympas, comme un chat. Elle voulait vraiment un chat. Je voulais la sécurité de l'emploi et la sécurité financière. Mais ce n'est pas ça que Paul demande de prier. Il prie pour rien de tout ça. En fait, il prie pour qu'on ait la connaissance, qu'on soit rempli de connaissances. Ça pourrait nous choquer. Est-ce que vraiment il faut prier pour quelqu'un qui est en plein combat, en pleine lutte, qui est anxieux, qui entend des faux témoignages, qu'il faut qu'il soit rempli de connaissances? Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour d'autres choses, hein, mais je veux dire que là, il faut comprendre ce que Paul veut nous dire. C'est quand quelqu'un est en lutte et qu'il prie pour la connaissance de sa volonté. Donc si je reformule dans le sens qu'on a de la traduction grecque, ça nous dit que c'est une connaissance précise du désir de Dieu. Ce qui est génial. Pourquoi? Parce que quand je vous ai dit combien, ce que je voulais prier pour Jacqueline, c'est parce que je sais exactement ce dont elle a besoin, de ce que son cœur désire, et de ce que mon désir est. Je sais bien ce que le groupe de jeunes désire. Mais c'est, Paul nous demande de prier pour une connaissance de ce que Dieu veut, de ce que Dieu désire. Et qu'est-ce que Dieu veut? On l'a dit, c'est vous qu'il veut. Ce qui est incroyable, il vous veut vous. Il veut que la gloire lui revienne. Il veut que vous ayez une pleine joie et l'assurance de la paix dans le Christ Jésus. Si vous n'avez pas cela, alors il faut vraiment que vous écoutiez. Et si vous pensez que qu'un appartement va vous donner tout ça, alors vous avez besoin d'écouter. Si vous pensez que la solution à vos problèmes, c'est autre chose que la connaissance de la volonté de Dieu, ça c'est vraiment pour vous, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Donc, connaissance de la volonté de Dieu, une connaissance précise, en toute sagesse et intelligence spirituelle, c'est traduit par sagesse et compréhension, discernement qui viennent de l'Esprit Saint. Donc, la sagesse, c'est donc la capacité de prendre la connaissance qu'on a et l'utiliser d'une bonne manière. Et le deuxième, c'est le compréhension, le discernement. Il y a différentes manières de regarder le discernement. C'est deux rivières qui se rejoignent. C'est tout d'un coup, c'est ces moments de réalisation. Ah oui, ça, un aha moment, c'est un moment où on réalise des choses. Ah oui, où les choses prennent leur sens. On trouve le sens des choses spirituellement. Et Paul prie qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté, pas de la connaissance de ce que Dieu fait. Parfois, on ne sait pas exactement ce qu'il fait et on ne peut pas comprendre ce qu'il fait. On ne peut pas vraiment connecter les différents points pour avoir l'explication. Mais on peut, avec une sagesse spirituelle et du discernement, on peut faire l'addition, on peut faire 1 plus 1 et comprendre ce que Dieu veut dans nos vies. Vous avez compris cela? Donc, c'est ce que je prie pour vous aujourd'hui. Et ce que je prie pour moi-même, c'est que je puisse comprendre, discerner, non pas ce que Dieu fait, non pas comment il fonctionne, mais ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut dans ma vie, ce que Dieu veut faire dans ma vie. Ou veut que je fasse. Donc il y a une raison pour tout ça. C'est pour que vous marchiez d'une manière qui plaît à Dieu. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Donc c'était un appel, une mission qui est vraiment haute. Hein. C'est un standard. La barre est mise très haute pour être digne du Seigneur. Alors si vous êtes digne du Seigneur, vous pouvez marcher de manière confiante. Parce que si vous pouviez marcher d'une manière qui plaît complètement à Dieu, vous sentiriez bien. Mais c'est pas possible. On peut pas être complètement dans les voies de Dieu à 100% et être parfait. Mais pourtant, quand Dieu nous voit marcher par sa justice, il nous rend juste et digne, et il nous voit marcher d'une manière digne vers lui. Et donc, nous marchons d'une manière digne si nous le suivons. Et en cela, vous pouvez avoir l'assurance et un pas, que votre pas soit sûr et affermi. Que dans la position dans laquelle vous êtes, dans votre vie, à cet instant, cette assurance, même si vous n'avez pas d'assurance de quoi que ce soit dans la vie, que les choses vous filent entre les doigts, vous pouvez avoir cette assurance-là. Vous pouvez marcher de manière digne avec le Seigneur, c'est-à-dire marcher d'une manière humble, sachant que vous, que votre dignité, elle vient de Dieu. Progressez dans la connaissance de Dieu et portez des fruits. Donc je vais passer moins de temps à parler de ce verset-là, parce que je vais attention au temps, mais il parle de progresser dans la connaissance de Dieu. On parle encore de connaissance, mais cette fois-ci c'est différent. C'est une connaissance différente. La première fois qu'on a mentionné la connaissance, c'était une compréhension précise du désir de Dieu. Et la deuxième fois, là, c'est une connaissance qu'on expérimente. C'est progresser dans la manière dont on peut ressentir Dieu. La raison pour laquelle Paul prie que vous soyez rempli de la connaissance de Dieu, rempli de la connaissance de son désir, pour que vous marchiez d'une manière digne, digne de Dieu, pour lui plaire entièrement, que vous portiez des fruits, toutes sortes de bonnes œuvres, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que vous expérimenterez plus l'amour de Dieu. Dans la prière, dans votre foi, dans les temps où vous êtes à l'église, dans votre vie privée, vous pouvez retrouver cette confiance. Merci, Mons. Vous serez fortifié en tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Alors là, ça devient un peu bizarre à mes yeux. Tous ces versets là me semblent un peu bizarres par certains aspects. La première partie n'est pas si bizarre, mais. Alors ça dit, vous serez fortifié à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Par sa puissance glorieuse, ça veut dire en fait. C'est un grand pouvoir qui coule sur un petit pouvoir, qui se déverse dans un plus petit pouvoir. Donc ça veut dire qu'il y a une puissance qu'on ne peut pas comprendre et qui est glorieuse et qui se verse sur quelque chose qui a un pouvoir mais moindre. Vous comprenez ? Je pense qu'on peut... On ne peut pas vraiment comprendre cette partie qui dit « par sa puissance glorieuse » si on ne voit pas cette image. Et avec joie, persévérant et patient. En fait, dans certaines traductions, c'est échangé. C'est drôle parce que dans certaines traductions, on voit « patient et persévérant ». Et dans d'autres, c'est « persévérant et patient ». C'est comme si on ne pouvait pas trouver la différence entre les deux mots. Ils sont interchangeables. Donc je ne peux pas vous expliquer quelle est la différence dans ces deux mots. J'ai regardé, mais je ne peux pas l'expliquer. Et il y a des personnes qui connaissent le grec qui pourraient vous dire mieux que moi, et qui sont même ici dans cette salle. Mais l'un de ces mots, persévérant, patient, qui a été traduit par persévérant, dans le grec upomone, upomone c'est l'endurance, la persévérance à travers les épreuves. Nous parlons bien ici d'épreuves et de difficultés, et c'est la persévérance qu'on voit à travers ces épreuves. Moi j'étais dans une équipe de lutte, je faisais de la lutte, j'étais pas très bon, j'étais un peu maladroit, mais je faisais de la lutte au lycée, mais j'ai quand même continué. Et notre coach a utilisé vraiment comme un véhicule pour nous motiver, comme une manière de nous motiver. Par exemple, quand on a commencé à vraiment se mettre en condition et de devenir vraiment, de se mettre en forme physiquement, il a expliqué ce mot, persévérance. Il nous a expliqué l'importance de ce mot, c'est en fait. Il y a un adjectif qui pourrait aller derrière. Ce serait une persévérance qui vient du cœur. C'est que quand vous avez utilisé toutes vos ressources humaines et que vous êtes à la limite pour accomplir la tâche qui est devant vous, vous avez besoin de l'aide de Dieu. C'est quand... Donc la persévérance de se donner soi entièrement, c'est quand on essaie de remplir la tâche que Dieu nous a donnée, mais en ayant usé toutes nos forces et en ne pouvant plus compter que sur Dieu pour nous aider à finir la tâche qu'on a commencée. Donc moi, c'était un moment de ma vie où il nous a vraiment poussé ce coach dans cette équipe de lutte. Il nous a poussé jusqu'à nos limites où on ne pouvait plus continuer. Et là, on priait et on retrouvait la force de continuer. Et c'était vraiment son effort pour nous montrer la persévérance tout entière. Pour que vous puissiez être fortifié par un pouvoir qui est plus grand que le vôtre, et que vous êtes dans ce moment où vous ne pouvez plus continuer, c'est là que vous trouvez cette persévérance. Et ensuite, il prie pour de la patience, pas pour la solution, mais pour de la patience. Alors d'abord, il prie pour la connaissance, et ensuite pour la persévérance, pour que l'on puisse supporter, ou pour qu'on puisse gérer les combats auxquels on fait face. Nous sommes toujours en train de chercher des solutions. Nous sommes toujours en train de chercher ce dont nous avons besoin. Quand nous prions pour nous-mêmes et les autres, et ce n'est pas mauvais, parce que c'est bien de faire des requêtes et de prier pour des choses, mais c'est pas... Voilà, il ne faut pas prier pour ce dont on a besoin, mais pour ce dont on a déjà. Et ça, c'est la clé vraiment de la prière de Paul avec les Colossiens. C'est qu'il remercie Dieu pour ce qu'il leur donne déjà. Et ensuite, il prie pour qu'ils les encouragent et pour qu'ils connaissent ce qu'ils ont déjà, pour qu'ils puissent endurer, pour qu'ils puissent avoir accès à une richesse, à vraiment ce dépôt de joie, ce compte en banque de joie, de discernement dans le milieu de leur bataille.
Alors,
le verset suivant, qui est très clair, parce que c'est exactement ce qu'il dit. Donc que vous soyez fortifié. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc là, Paul repart sur une prière de reconnaissance. Si vous regardez vraiment ce verset, et vous voulez me dire ce que ça veut dire? Parce que je pense qu'on a déjà lu ça, on l'a accepté, waouh, prendre part à l'héritage des saints dans la lumière, mais vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Et souvent, quand moi je prie pour Jacqueline, je passais cette partie parce que je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire vraiment. Prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est très poétique, mais c'est drôle parce que quand je regarde ce verset, ça ne me parle pas. C'est reconnaissance au Père qui nous a rendus capables. Donc, encore une fois, nous n'avons pas de mérite. Il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter le salut. Le salut de Dieu. C'est Dieu qui nous donne par sa grâce. Et donc là, il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc cette partie est vraiment cool. Nous partageons. Prendre part, c'est partager. Vous avez une portion, une partie, de l'héritage des saints dans la lumière. Vous avez comme un lot de terre dans la lumière, ce qui est plutôt génial. Vous avez un lot de terre de quelque chose qui ne peut pas être divisé. C'est cool, non? Vous avez une portion de quelque chose qui ne peut pas être divisé. On ne peut pas valoriser l'héritage du royaume de Dieu. On ne peut pas décrire la valeur que cela peut avoir. Et nous, c'est ce que nous avons. Nous avons des actions, des participations dans le royaume de Dieu. Et ce que cela nous dit aussi, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous avons un héritage avec tous les autres saints. Et je pense que c'est vraiment remarquable. Vous n'êtes pas le seul. Okay? Vous n'êtes pas un saint parce que vous êtes un saint. Vous n'êtes juste parce que vous êtes génial. En fait, j'ai plein d'amis qui n'en ont rien à faire de Jésus, qui sont vraiment beaucoup plus talentueux que moi. Des fois, on se dit, ouais, mais eux, ils méritent des choses parce qu'ils sont talentueux, ils font plein de choses. Mais on ne mérite pas le salut de Dieu. Une partie de son royaume, c'est Dieu qui nous rend dignes et qui nous rend capables, qui nous rend capables de prendre part à l'héritage. Et vous avez cet héritage. Nous savons maintenant qui l'a. Qu'est-ce que c'est que cet héritage? Quelles sont ces richesses? Et comment on les trouve? Eh bien, Paul explique un peu plus après ce verset, après cette prière. Au verset 13, il nous dit, et je ne vais pas développer là-dessus, mais on va juste regarder le verset 13. Il parle de Christ. Juste après cette prière, c'est génial parce que il écrit une église qui a des faux prophètes, des faux messages. Et il parle de Christ. Et dans ce passage, c'est la seule chose précise de ce temps qu'on sait précisément sur les Colossiens. Sur ce que, quelles sont ces richesses et cet héritage. On peut penser quelles étaient les idées qui circulaient, les philosophies qui circulaient à ce moment-là, et les fausses idées. Mais on ne pourrait pas vous dire exactement quel était précisément dans ce moment-là le combat précis des Colossiens. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est ce que Paul leur a dit par rapport à ce problème qu'ils avaient. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'en être le tout premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans ce passage? Maintenant que nous avons digéré ce passage-là, ou déjà ingéré, il y a quelque chose que je voudrais vous proposer. L'un, c'est de mémoriser vraiment. Mémoriser, essayer versets 9 à 20. C'est comme ça, quand vous priez, quand vous êtes face à un combat spirituel et que vous avez besoin de vous souvenir pourquoi prier, on peut méditer sur ces versets, se les remémorer. Et donc, Tim Keller a dit un truc que j'ai trouvé génial. Si je savais ça de tout mon être complètement, comment est-ce que ma vie serait différente? Comment est-ce que votre vie serait différente si vous viviez cette prière verset 13 à 20? Si vous viviez ça au quotidien, c'était dans chaque fibre de votre être, votre vie serait radicalement différente. Non? Parce que vous aurez une compréhension, non pas de ce dont vous avez besoin, non pas de ce que vous désirez, mais de ce que vous avez déjà. Et ça, c'est ça que je voudrais vraiment que vous reteniez aujourd'hui. C'est que quand vous priez, vous vous rappeliez d'abord de ce que Dieu fait déjà dans vos vies. Et que vous soyez rempli cette semaine de cette idée. L'important, ce n'est pas ce dont j'ai besoin. C'est ce que j'ai déjà. C'est de comprendre ce que Dieu fait dans sa gloire et le fait qu'il m'aime. Il m'aime. L'Église, Trinité, m'aime. Mais Dieu m'aime, c'est encore autre chose. C'est incroyable, je peux avoir un amen, oui. Donc ce que je voudrais, c'est qu'on médite là-dessus, qu'on puisse mémoriser ces versets. Et deuxième chose, c'est prier pour vous-même. Priez pour vous-même en utilisant ce passage. Priez pour votre église. Quand quelqu'un vient et dit, comme nous avons dit la semaine dernière, nous avons prié pour une église qui était persécutée. Priez pour eux. Priez pour qu'ils soient encouragés de la connaissance de du pouvoir qu'ils ont à travers Dieu. Parce que c'est une situation que je ne connais pas, mais on peut prier pour eux, pour qu'ils puissent être ressourcés. Mais ce n'est pas ce que Paul prie, c'est Paul prie pour qu'ils puissent discerner la volonté de Dieu, parce que ça va leur donner de la persévérance. Et c'est ça dont ils ont besoin. Et ils ont tout déjà, tous les outils, grâce à Dieu. La prochaine chose, c'est de comprendre que les pouvoirs et les richesses que vous avez, vous pouvez les utiliser pour prier pour vous-même et pour d'autres. Et Jésus a tout abandonné pour que nous puissions prier pour nous-mêmes. Et Jésus a prié d'une certaine manière contre lui-même, puisqu'il a tout abandonné pour nous le donner, pour nous équiper, pour prier pour nous-mêmes et pour les autres. Et pour terminer, je voudrais dire qu'il y a une chose que je trouve remarquable, c'est que quand nous prions quelque chose une fois, Jésus l'a prié deux fois. Donc je vous implore de mémoriser ce passage, de vraiment le connaître complètement, pour connaître complètement le désir de Dieu pour vous, et que vous puissiez partager les richesses et l'héritage, et que nous ne soyons plus assoiffés, n'ayons plus faim, et que nous ne vivions pas toujours pour vouloir autre chose. Parce que nous serions tellement remplis et tellement satisfaits. Et on déborderait si on connaissait ce passage vraiment. Et ça nous permettrait de marcher dans une manière qui nous rend dignes de Dieu. Une manière qui lui plaît entièrement. Et de manière qui nous permet de porter du fruit. Si on se rappelle de tout ce qu'on a, je vais prier pour nous. Seigneur, je te remercie pour ta parole et pour tout ce que ce passage m'a apporté pendant cette semaine difficile pour moi. Seigneur, quand je me sentais petit, faible, et pas rempli, pas complet, mais merci, Père, pour la manière dont tu m'as prouvé que ce n'est pas, l'important n'est pas comment je me sens, mais qui tu es et ce que tu fais dans ma vie. Et je prie pour nous aujourd'hui que nous puissions ne pas cesser de prier les uns pour les autres, ne pas cesser d'être reconnaissants, Seigneur, de te donner notre reconnaissance pour toutes les choses que tu as déjà fait pour nous. Paul a mis vraiment l'accent là-dessus parce que c'est la manière dont de se rappeler des choses que nous avons déjà qui nous rend plus forts et persévérants. Et je te prie pour que nous, les croyants, puissions prier avec vraiment des mots de reconnaissance remplis de ta connaissance, la connaissance de ta volonté, pour qu'on puisse marcher d'une manière digne devant toi. Marcher d'une manière qui te satisfait entièrement et qui porte des fruits, Seigneur. Et qu'on puisse vraiment expérimenter ton amour plus profondément dans toutes les parties de nous-mêmes, Seigneur. Je te prie que tu nous remplisses de ce pouvoir qui est bien plus grand que le nôtre, ta puissance glorieuse, et que, Seigneur, nous puissions avoir cette puissance pour endurer les situations difficiles. Et parce que, Seigneur, tu nous as rendus capables. Tu nous as donné une partie de ce qui est indivisible. Et c'est remarquable. Et Seigneur, je te prie pour l'Église de Trinité, pour moi-même, pour les groupes de jeunes. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.